Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'est avec un immense plaisir que je vous parle d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, Mama Hangs. Mama Hangs a les produits qu'il te faut en tant que maman allaitante. La brassière et le soutien-gorge d'allaitement absorbant. Ils sont conçus dans un tissu bien spécifique pour l'occasion, aka le micromodal, qui absorbe, sèche vite et te permettra d'éviter toute odeur, et ce, en restant au sec. Tout ça veut dire que si, comme moi, tu as des fuites de lait d'un côté quand le bébé tète de l'autre, adieu coussinets d'allaitement qui se font la malle et bonjour brassière ou soutien-gorge qui tiendra toute la journée. Et ce n'est pas fini. Le petit nouveau de la collection, c'est le body, qui a les mêmes talents absorbants en s'ouvrant à l'avant avec des aimants trop pratiques. Ici, on ne se passera plus de ces produits top quali, beaux et confortables. Alors merci Mama Hangs de soutenir le podcast depuis si longtemps. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur leur site mama-hangs.com et avec le code MILCHECKER, tu bénéficieras d'une jolie et rare remise de 15% sur ta commande. Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne têteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons. Et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de deux enfants, l'un allaité une année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parent ou soignant, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement, et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez une minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Salut tout le monde, donc on est un peu dans le thème là pour les 15 jours de l'hypoplasie mammaire, de l'insuffisance de tissu glandulaire, bref des vrais manques de lait. Et comme j'ai eu des mamans que j'ai vues en consultation qui ont eu cette expérience-là et qui pour autant ont allaité de façon différente toutes les deux, je me suis dit que ce serait intéressant de recueillir leurs témoignages, en plus d'avoir celui d'Aubrey, la consultante en lactation IBCLC, qui vous a fait à la fois un témoignage dans l'épisode 60 et qui est aussi l'experte qui parle dans l'épisode 61. Pour vous expliquer de quoi il en retourne autour de ces manques de lait. Et donc voilà, je me suis dit que ce serait quand même super d'avoir un peu plus de témoignages sur ce sujet-là, de est-ce que l'allaitement était possible pour elle, pas possible, dans quelles conditions, qu'est-ce que ça a impliqué pour ces mamans à chaque fois. Et donc cette semaine, on va d'abord recevoir le témoignage de Victoire, qui m'a du coup laissé différents vocaux voilà, pour raconter comment ça s'est passé pour elle sur le répondeur de Milkshaker. Voilà, je la remercie beaucoup d'avoir participé à ça. Et puis, bah, je vous laisse écouter de quoi il en retourne.
Bonjour Charlotte. Alors, moi je suis Victoire, je suis maman de deux enfants, Camille qui a 4 ans et demi et Raphaël qui a presque 18 mois. Ils ont été et sont toujours allaités, en tous les cas pour Raphaël. Camille, elle a été allaitée jusqu'à il y a quelques mois et Raphaël, l'allaitement est toujours en cours. Alors certes, on peut parler d'allaitement long, mais en tous les cas, ça a été un vrai parcours du combattant. Que je vais essayer de vous raconter ici. Pendant ma première grossesse, donc on était en 2019, je me suis dit que j'aimerais bien allaiter un petit peu, peut-être 3 mois, voilà. Je pensais pas du tout aller au-delà de ça. J'avais pas de connaissances sur l'allaitement, j'avais peu de mamans qui allaitaient autour de moi. Et donc, je me suis un peu renseignée via les réseaux sociaux, mais bon, pas non plus beaucoup. Camille est née en septembre 2019, première tétée en salle de naissance. Pendant le séjour à la maternité, j'ai eu beaucoup de conseils des équipes qui me disaient un peu tout et son contraire sur l'allaitement, qui me truturaient les seins, bref. Voilà, bon, ça, c'était le séjour à la maternité. Et puis, on est sortis et donc, on avait des rendez-vous pour les peser à la PMI. Et en fait, c'était des moments qui étaient extrêmement culpabilisants parce que la courbe de poids de Camille n'était pas bonne et que moi, je me disais, mais j'ai envie d'allaiter de manière exclusive, donc j'ai pas du tout envie de compléter. Il n'y a pas de raison que je complète, ça va aller, voilà. Donc, j'ai pris rendez-vous avec une consultante en lactation IBCLC qui m'a proposé de prendre du fenugrec pour m'aider à booster ma lactation et de tirer mon lait. Mais elle n'a pas regardé la bouche de ma fille, donc pas identifié un potentiel problème de frein. Ça s'est arrêté là. Et grâce aux réseaux sociaux, et notamment à une super Instagrammeuse qui existait à l'époque et malheureusement qui n'existe plus maintenant, mais qui est limite d'utilité publique, j'ai eu le contact d'une autre IBCLC qui, elle, en voyant ma fille dans les premières secondes, a identifié un problème de frein restrictif et également un défaut de quantité sur ma lactation. Mais là, on était déjà près d'un mois et demi après sa naissance. Donc, il a fallu prendre rendez-vous pour faire couper les freins. Et je me suis dit, bon, bah, c'est ça le problème. Une fois que les freins sont coupés, ça ira mieux. Donc, le rendez-vous est arrivé. J'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous assez rapidement. Donc, je pense que Camille devait avoir 2 mois. Les freins ont été coupés, j'ai tant bien que mal fait les exercices, la prise en charge n'était pas du tout celle qu'elle est maintenant aujourd'hui sur les freins restrictifs, donc j'avais des exercices à faire, j'avais aussi des séances d'ostéo, je crois que j'avais eu une séance avant, une séance après, quelque chose comme ça, c'était un suivi qui était moins encadré que maintenant. Bref, les freins ont été coupés, quelques exercices, tant bien que mal. Mais pas beaucoup de changements sur la lactation. J'ai essayé le power pumping, c'est-à-dire de stimuler la lactation. Je crois que c'était un protocole sur 3 jours où il fallait tirer son lait toutes les heures. Je me souviens plus trop, mais c'était quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez lourd. À ce moment-là, j'avais pas encore repris le travail, heureusement, parce que sinon j'aurais pas pu faire tout ça. Et en parallèle, au bout d'un moment, ma consultante en lactation m'a dit « Écoute, Victoire, là, je suis désolée, mais la courbe de poids, ça va pas, donc on n'a pas d'autre choix que de compléter. » Alors, ça m'a fait extrêmement mal au cœur, un gros sentiment d'échec, de pas être capable de nourrir ma fille comme elle en aurait besoin. Et puis j'étais aussi assez inquiète de ce dont on pouvait aussi entendre parler. Donc ce qui me faisait peur, c'était la confusion Saint-Étienne. Et le fait que Camille, une fois qu'elle aurait goûté au biberon, ne voudrait plus de mon sein. Donc je me suis dit, ben dans ces cas-là, je vais essayer les contenants alternatifs et je suis partie sur le DAL au sein, donc le dispositif d'aide à l'allaitement, qui est une petite sonde qu'on met dans la bouche du bébé, qu'on colle sur le sein, qu'on met dans la bouche du bébé d'un côté et de l'autre, qui est dans un récipient qui contient le complément, donc ça peut être du lait maternel, en l'occurrence chez moi évidemment c'était du lait artificiel, puisque le sujet a été que je n'avais pas assez de lait maternel, sachant que donc je tirais mon lait, je prenais une bonne dose de fenugrec, j'ai également eu un produit homéopathique, une solution homéopathique qui m'avait été prescrite par un médecin et un traitement de motilium pour voir si ça arrangeait les choses. Et en fait, globalement, rien de tout ça ne suffisait. Tout ça, j'étais encore, je n'avais pas encore repris le travail. J'ai repris le travail quand elle a eu 4 mois. On était en janvier 2020. Et ce que je faisais donc, c'est que elle était en garde partagée, et donc la nounou, elle avait du lait, un petit stock de lait, je sais plus combien je donnais, je pense entre 100 et 120 millilitres, que je tirais quand j'étais au bureau. Et le reste, eh ben, elle donnait du lait artificiel au biberon, parce que là, je pouvais difficilement lui demander de donner dans des contenants alternatifs, elle n'y était pas du tout sensibilisée et ça n'aurait pas du tout... Enfin, c'était compliqué. Bref. Et donc, on a fonctionné comme ça. Le Covid est arrivé, le confinement est arrivé au mois de mars. Et à partir de ce moment-là, on a repris l'allaitement à la demande à la maison. Et on arrivait sur ces 6 mois à ce moment-là. Et donc, on a commencé la diversification alimentaire. Ce qui m'a permis d'arrêter les compléments, puisque elle prenait suffisamment de poids entre ce qu'elle mangeait et l'allaitement. Je continuais de l'allaiter et on fonctionnait comme ça. Et ça a fonctionné comme ça. Une fois que la diversification est arrivée, donc au bout de 6 mois, les choses ont été rendues beaucoup plus faciles puisque je n'avais plus besoin de DAL au sein. J'ai continué de tirer mon lait quand je suis retournée au travail post différents confinements au bureau pour qu'elle ait un petit peu de lait, mais c'était vraiment du plus et l'allaitement, enfin c'était principalement ce qu'on faisait le matin, le soir et puis le week-end.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié. Mais aussi ô combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé Carry and Pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lever, tout en respectant sa position physiologique, l'enroulement de sa colonne, l'écartement de ses hanches, ainsi que le dégagement de ses voies respiratoires, grâce à des systèmes de serrage des pans de tissu. Ce tissu, justement, il est tout doux. En coton bio, certifié GOTS, le tout est dessiné à Biarritz et fabriqué au Portugal. Tu pourras l'utiliser de la naissance jusqu'aux 10 kg de ton bébé, de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHECKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%.
En fonction de ses besoins. Et donc, on a continué comme ça. Je suis tombée enceinte du deuxième, elle avait à peu près 2 ans et demi. Si mes calculs sont bons, un peu moins de 2 ans et demi, 2 ans et 3 mois. Et elle a continué de téter pendant la grossesse. Moi, je me suis dit, bah, elle arrêtera de téter quand elle arrêtera. On va jusqu'au sevrage naturel. Ça me va comme ça. Ça va à mon conjoint comme ça. Donc go. J'ai pas eu l'impression d'avoir du lait pendant ma grossesse, mais elle demandait quand même à téter. Donc on faisait une tétée le matin et le soir, qui était plus un moment câlin et. Et voilà, et moi, dans ma tête, je me disais, je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu pour le deuxième, donc je vais essayer de me préparer. J'avais dans la tête que 2 allaitements ne se ressemblent pas, et j'avais espoir que ce 2e allaitement se passe comme sur des roulettes, je suis bien renseignée, je suis bien entourée. J'ai une super consultante en lactation, même 2 super consultantes en lactation, une super ostéo, un réseau de mamans allaitantes, bref, vraiment une super équipe. J'ai rencontré donc ma 2e consultante en lactation pendant la grossesse. On a fait une consultation prénatale et je lui ai parlé un petit peu de mes difficultés. Pour Camille, elle m'a dit ben ouais, 2 allaitements ne se ressemblent pas, le premier ne préjuge en rien de comment va se passer le deuxième. Et je lui ai parlé également, à l'époque Charlotte avait sorti un podcast, un épisode du podcast sur le manque de lait. Je me suis dit ben en fait c'est peut-être ça mon problème. Donc j'en ai parlé à Émilie, ma consultante, qui m'a dit, écoute, en tous les cas, c'est pas de l'hypoplasie mammaire. En voyant ma poitrine, ça ressemble pas à de l'hypoplasie mammaire. Et l'insuffisance de tissu glandulaire, c'est quelque chose qui est difficile à diagnostiquer, d'une part qui est pas très connue, et d'autre part, qui c'est un peu un diagnostic par élimination, c'est-à-dire qu'on a tout éliminé, et il reste, bon, ça, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être encore autre chose, on sait pas. Donc bon, je suis partie comme ça, avec, si besoin, j'ai ce qu'il faut pour stimuler ma lactation, j'ai un tire-lait, j'ai du fenugrec, et je suis prête dans ma tête. Donc Raphaël est né en septembre 2022, très rapidement après, comme il y avait eu des freins pour Camille, d'une part, j'avais rendez-vous juste après sa naissance, je pense une semaine après à peine, avec Charlotte pour un petit point ostéo, et puis avec ma consultante en lactation pour faire vérifier le sujet des freins, etc. Et il s'est avéré qu'il avait des freins même encore plus restrictifs que Camille. Donc, on a suivi le protocole qui avait beaucoup changé depuis 2019, qui s'était vachement renforcé, avec des séances d'ostéo, des séances de chiro, en accompagnement avec une consultante en lactation IBCLC, pour traiter ses freins. Et je me suis dit, encore une fois, allez, après les freins, ça ira. Peut-être que pour Camille, en fait, j'avais pas fait suffisamment les exercices, pas suffisamment sérieusement, pas suffisamment longtemps. Là, allez, ça va marcher et l'allaitement va rouler. Ça n'a pas été le cas. Spoiler alerte. Raphaël avait une courbe de poids qui descendait. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ben, faut être raisonnable. Malgré les freins coupés, malgré la stimulation, malgré toute l'attention, malgré le fait que je savais que c'était pas une hypoplasie mammaire, etc. Je n'ai pas de réponse à pourquoi il y a un problème au niveau de la production de lait, pourquoi il n'y a pas assez de lait, mais il faut que je complète. Donc, je suis repartie avec un dispositif d'aide à l'allaitement pour Raphaël. Et on a continué l'allaitement comme ça jusqu'à sa diversification alimentaire. Voilà. Donc aujourd'hui, on est 18 mois après la naissance de mon deuxième. Je n'ai toujours pas de réponse à ce manque de lait. Je ne sais toujours pas pourquoi. Ça ne m'a pas empêché de vivre deux merveilleuses ou une seule, puisqu'elle a été continue, merveilleuse aventure d'allaitement avec mes deux enfants, avec des moments de câlins, des moments de doute, mais qu'on a traversé ensemble et où finalement on s'est accroché. Que ce soit mes enfants et moi, on s'est accroché à cette aventure d'allaitement et on a vu le bout des difficultés à partir du moment où la diversification est intervenue et après c'est finalement plus que du plaisir, on n'est pas fixé sur la courbe de poids en se disant oh là là. Ça va pas. Là, juste, on profite. Si j'avais un troisième, je suis pas sûre. Là, comme ça, je dirais, je suis pas sûre que je remettrais ça. Mais en fait, oui, bien sûr que je le referais. Mais c'est dur. Heureusement que j'avais un conjoint qui m'a beaucoup épaulée. Heureusement que j'avais une super équipe de professionnels, de mamans allaitantes. Autour de moi, parce que sans tout ce monde-là, sans ce village, et ben on n'aurait pas réussi à surmonter ça et on n'aurait pas vécu cette aventure d'allaitement de la même manière. Donc pas de regrets. Et voilà, et peut-être qu'un jour j'aurai la réponse à ce manque de lait, j'espère. Et puis sinon, ben voilà, peut-être qu'un jour les gens... Enfin, peut-être qu'un jour ce sera un sujet sur l'allaitement. Mais en attendant, juste on profite et puis voilà.
Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram, @milkshakerpodcast, et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milkshaker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes, dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Believe.